tient pour moi un travail à faire de la part des marques, un travail de transparence, d'information. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est primordial et on le voit, hein. Tout le monde essaye de le faire, mais c'est pas toujours évident. Et je pense aussi qu'en parallèle, il y aurait aussi un, alors c'est toujours la même chose, c'est les associations, c'est l'État, je sais pas trop qui. Je pense que ce serait vraiment nécessaire de refaire des campagnes locales sur les villes, sur les plages, pour sensibiliser un peu plus les gens au danger du soleil.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je donne la parole à Aurélie Ribière. Aurélie a lancé il y a quelques semaines Midi 12, une nouvelle marque de produits solaires. Entre les polémiques autour des filtres et la nécessité de se protéger des UV, Aurélie a choisi sa propre voie, un compromis alliant naturel, synthétique et sensorialité. Alors on va parler de tout ça, mais également d'écologie. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Aurélie.
Bonjour Chantal.
Alors Aurélie, vous étiez dans le secteur cosmétique, je crois.
Oui, alors tout à fait. Je travaille dans la cosmétique depuis très longtemps maintenant, un peu plus de 15 ans. J'ai eu la chance de travailler pour un grand groupe et ensuite pour une entreprise familiale. Donc, ça m'a permis d'avoir une bonne vision du secteur. Et après 15 ans, je suis toujours autant passionnée par les cosmétiques. Donc, je suis ravie de pouvoir continuer de travailler dans ce domaine-là.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer une marque de produits solaires?
Alors, il y a plusieurs raisons, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte, mais la première, d'un point de vue cosmétique, c'est vraiment une évolution personnelle. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, on est de plus en plus sensible à l'environnement, aux produits qu'on utilise, à la fois dans l'alimentation, les produits qu'on va utiliser même pour faire notre ménage ou pour mettre sur notre peau. Et donc, j'étais de moins en moins en adéquation avec ce qu'on appelle la cosmétique conventionnelle. Et sachant que j'étais plutôt du côté commercial, ça devenait presque pour moi difficile de vendre les produits pour la marque pour laquelle je travaillais. Donc ça a été une raison qui m'a poussée à me dire tiens, j'aimerais vraiment participer à cette transition qui est pas nouvelle, hein, qui a déjà été amorcée il y a quelques années, avec beaucoup de marques qui apparaissent avec des formules très chouettes. Et j'avais envie de mettre un peu ma pierre à l'édifice. Et donc ça, c'était la raison pour laquelle j'avais envie de créer une marque de cosmétiques. Et ensuite, les solaires, c'est plus venu au fil des discussions, alors notamment parce que j'ai la chance d'habiter en bord de mer, je passe beaucoup de temps sur la plage.
Ah, là, et c'est bien.
Ça, c'est chouette. Et c'est vrai que pour moi, j'avais du mal à trouver les produits qui me correspondent, qui correspondent à ma peau, qui correspondent à la protection que je voulais avoir. Et puis, je sers beaucoup de conseils autour de moi et mes amis me demandaient souvent ce qu'elles pouvaient utiliser et j'avais aussi du mal à les conseiller sur la bonne crème, que ce soit pour elles, pour leurs enfants, pour leur mari. Et c'est un peu ça qui m'a orientée vers le choix de travailler sur des solaires. Et j'ai commencé donc creuser un peu plus là d'un point de vue professionnel, poser des questions au laboratoire. Et les choses s'alignent parfois et j'ai eu la chance d'avoir un laboratoire qui a été OK pour m'accompagner sur ce projet. Et c'est vraiment ce qui a été le déclencheur. Mon ancien patron qui m'a dit « OK, go, faut y aller », donc il m'a soutenue sur le lancement. Le laboratoire qui me dit « OK, on travaille ensemble sur les solaires ». Bon, je me suis lancée et puis un an et demi après, j'arrive avec ma nouvelle marque.
D'accord. Et alors, comment Midi 12 se différencie-t-elle par rapport aux nombreuses autres marques de solaire qui existent?
Alors, c'est… En fait, au départ, mon choix, c'était vraiment de partir sur une formule ultra clean, bio, vraiment de cocher un peu toutes les cases. Et donc, le laboratoire dont je parlais, on a travaillé sur un cahier des charges assez strict que j'avais défini. Et puis, on a travaillé à la fois sur des crèmes, sur des huiles, avec des filtres bio ou pas. Et au fur et à mesure, en fait, de nos tests, c'est devenu un peu comme une évidence. C'est que je ne pouvais pas rassembler tous mes critères. Donc, il a fallu faire des choix. Et le choix de la sensorialité et de l'efficacité du produit, surtout pour des solaires, était pour moi priorité numéro un. Et donc, malheureusement, ce n'était pas possible de faire ça avec des filtres bio. Parce que les filtres bio, on sait, ils ont cette contrainte, ils sont épais. Donc les textures sont forcément moins agréables. Donc c'est vraiment en fait la recherche en fait sur le produit qui m'a permis en fait de trouver un petit peu mon positionnement aussi par défaut. Et donc pour moi c'est devenu une évidence d'utiliser le meilleur de la nature et sans pour autant renier tous les avantages qu'on peut avoir avec des produits qu'on va appeler chimiques. Ça fait toujours un peu peur, mais parfois il y a des choses bien aussi dans la chimie.
Bien sûr, puis tout est chimie, hein, surtout en cosmétique. Hein.
Oui, c'est vrai aussi. De toute façon, c'est transformé dans tous les cas, vous avez raison. Et donc voilà, donc mon idée, au fur et à mesure, elle s'est affinée. Et donc pour ne pas rogner sur la sensorialité, j'ai choisi des filtres chimiques, donc que j'appelle nouvelle génération, pour un peu les différencier de ceux qu'on n'aime pas. Et associé avec des huiles végétales, c'était pour moi un petit peu la meilleure option pour avoir la formule la plus saine possible et qui protège et qui n'est pas mauvaise pour notre santé. Voilà, donc tout ça, en fait, pour répondre à la question, je pars de loin, c'est de dire, j'apporte une nouvelle proposition, quelque chose de différent. Donc, c'est pour élargir un petit peu, on va dire, le champ des possibles. Il y a des choses très bien en bio, ça va dépendre de l'utilisation qu'on veut en faire ou de l'activité qu'on a. Il y a des produits voilà, qui vont être, on va dire, plus chimiques, mais qui vont être adaptés à certaines personnes peut-être. Et puis, moi, j'arrive avec une proposition, en fait, sur des huiles. Donc, c'est déjà un parti pris. Mais là, on a forcément un produit qui va être très sensoriel, facile à appliquer, qui pénètre vite, avec une bonne protection et qui peut être utilisé quand même par toute la famille.
D'accord. Et alors, pourquoi justement les huiles ? Alors, vous avez fait, je crois, un cocktail. Hein.
Oui.
Pour quelles raisons vous avez choisi telle ou telle huile par rapport à d'autres ?
Donc, pour rester vraiment dans le côté protection, en fait, j'ai sélectionné trois huiles qui avaient des propriétés antioxydantes et antiradicalaires pour les plus importantes, on va dire, en termes de protection et de propriété. Donc, c'était vraiment pour renforcer la protection des cellules aussi au travers du pouvoir des huiles et aussi sur les textures. Donc, par exemple, j'ai choisi l'huile de jojoba, qui est d'ailleurs une cire qu'on appelle l'or des Incas. Les Incas l'utilisaient pour se protéger du soleil déjà à l'époque. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et cette huile, elle est non grasse et non comédogène. Donc, ce qui fait qu'en termes de sensorialité, déjà, on a une huile qui va se rapprocher d'une huile sèche et qui va être très agréable à utiliser. Après, j'ai choisi l'huile de pépins de framboise. Donc là, est une huile très forte en fait en antiradicaux. Alors, on lui donne aussi des propriétés de protection contre les UV. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre en fait comment ils arrivent à étudier ça. Mais en tout cas, on sait
ouais,
que,
c'est...
oui, en soi, elle ne peut pas protéger des UV, mais en tout cas, le côté antioxydant en fait de l'huile de pépins de framboise permet de renforcer les défenses de la peau. Et après, la troisième que j'ai choisie, c'était l'huile d'argousier, qui là est très riche en vitamine C. Donc, c'est pareil, on va avoir une protection des cellules qui va être renforcée. Donc, mon idée, c'était en fait d'avoir des huiles végétales qui vont vraiment protéger les cellules de la peau et puis d'avoir ensuite ces filtres qui vont vraiment agir en protection anti-UV.
D'accord.
Et puis, okay. Ça permet forcément, les huiles, il n'y a pas d'eau, donc pas de conservateur. Donc, on a une formule qui est très saine.
Vous disiez que vous aviez fait le choix de filtres synthétiques ou organiques, hein, comme on les appelle. Pourquoi ce choix ? Pourquoi n'avoir pas finalement préférer les filtres minéraux ?
Alors, c'était un choix qui était vraiment orienté par rapport à la sensorialité et la texture du produit. Donc, les filtres minéraux, ça ne fonctionnait pas par rapport à ce que je voulais en termes de galénique, en fait, de produit. Donc, le choix s'est vite orienté sur des filtres et après, l'idée a été de trouver les filtres. Donc, c'est pour ça que je les ai appelés nouvelle génération, parce ce sont des nouveaux filtres qui ne sont pas cancérigènes, qui ne sont pas perturbateurs endocriniens. Donc, ça, c'était important aussi. Et des filtres que derrière, j'ai fait tester par un laboratoire indépendant pour certifier qu'ils ne sont pas toxiques pour l'environnement. Donc, ça, c'était des critères qui étaient importants et qui permettaient de me dire…
Mais, okay, pardon. Pardon, vous les avez fait certifier alors que, bon, vous saviez qu'ils étaient OK.
Oui, alors ça, c'était… pour rassurer le consommateur et pour me rassurer moi aussi Je vais me dire, OK, j'ai un fournisseur donc, qui va me fournir ce type de fil, qui me dit que c'est des fils qui ne sont pas nocifs pour l'environnement. Et je trouvais que c'était important d'aller le vérifier aussi dans la formule. Donc, c'est-à-dire que le laboratoire indépendant a testé ces filtres-là, mais surtout l'ensemble de la formule pour aussi se dire, bon, on mélange ces filtres avec des huiles. Est-ce que mélanger avec les huiles végétales, on garde toujours ce côté non nocif pour l'environnement?
Ouais, et, d'accord.
Voilà. Je trouvais ça important. Et puis surtout après, c'est forcément quelque chose que je vais mettre en avant parce que les gens sont très sensibles maintenant à la protection de la planète et c'est très bien. Donc pour pouvoir revendiquer et être sûr de ce que je dis, ça me rassurait en fait de faire tester l'ensemble de la formule par un laboratoire.
D'accord. Et alors les filtres font souvent l'objet de débats enflammés, hein, on l'a encore vu récemment avec l'octocrylène. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous a pas fait peur justement au moment où vous étiez en pleine conception de Midi 12?
Alors en fait quand j'ai fait ce choix-là, j'étais tellement dans la formulation et dans le produit que j'en ai presque un peu oublié toute la polémique qu'on peut avoir sur les filtres solaires. Et c'est plus au moment du lancement où je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait mes choix, je sais pourquoi je les ai faits et j'espère que ça va être compris. Et là, donc, je commence à avoir un tout petit peu de recul et je suis ravie parce que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais faire passer. Et j'ai même des gens qui travaillent en bio qui me contactent et qui me disent, bah oui, voilà, nous, on est des adeptes du bio, mais c'est vrai qu'en solaire, bah, on retrouve pas toujours ce qu'on veut. Et donc, ils vont rajouter mes produits. Parfois à côté d'une marque de solaire bio qu'ils ont.
D'accord,
pour avoir des distributeurs, pour avoir une alternative, en fait, à des gens qui voudraient un produit le plus sain possible, mais qui soit agréable à utiliser, parce que l'objectif, c'est quand même d'utiliser ces produits et d'en remettre régulièrement pour avoir une bonne protection contre le soleil.
C'est ça. Et est-ce que ce n'est pas justement aux marques de rassurer les consommateurs?
Oui, alors je pense qu'il y a... Il y a un gros travail à faire sur les solaires. Moi, j'ai échangé avec des cancérologues aussi pour avoir essayé de prendre un maximum de points de vue différents. Ils me disent qu'il y a une vraie recrudescence des cancers de la peau, ce qui est quand même assez inquiétant parce qu'on est de plus en plus informés quand même sur les dangers du soleil, les dangers de la cosmétique. Et pour autant, on se dit que les gens font pas spécialement attention ou n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé avant. Donc, il y a pour moi un travail à faire de la part des marques, un travail de transparence, d'information. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est primordial et on le voit, tout le monde essaye de le faire, mais c'est pas toujours évident. Et je pense aussi qu'en parallèle, il y aurait aussi c'est toujours la même chose, c'est des associations, c'est l'État, je sais pas trop qui. Je pense que ce serait vraiment nécessaire de refaire des campagnes locales, sur les villes, sur les plages, pour sensibiliser un peu plus les gens au danger du soleil, même si c'est tellement le bonheur d'aller à la plage, d'être en maillot, d'être à la piscine, mais voilà, d'être peut-être un peu plus responsable. Soit, et c'est... pour les enfants, je vois souvent des enfants, je me dis à midi en plein soleil, c'est fou. Pas possible.
Non, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de campagne sur les dangers du soleil et sur la nécessité de se protéger, c'est vrai.
Ouais. Alors, c'est peut-être pas la meilleure année pour le faire, je pense qu'on a déjà d'autres soucis, mais je pense que ouais, ce serait... Bon, déjà les marques, mais ce serait sûrement quelque chose à prévoir, ouais, à plus grande échelle.
Ouais, clairement. Alors, si on en revient à la question des fonds marins et à la question de la destruction des coraux, vous ne croyez pas qu'à force de mettre le focus sur les filtres, on en oublie que le plus gros problème, le plus redoutable, c'est quand même le réchauffement climatique?
Alors, tout à fait. C'est vrai que j'ai échangé avec une association avec laquelle je vais travailler, qui s'appelle For My Planet. Et justement, eux, ils travaillent beaucoup à l'étranger. Ils sont dans la protection forcément de l'environnement. Et je leur ai posé la question très récemment. Et ils me disaient que oui, les filtres, ça participe en fait à abîmer les fonds marins. Mais c'est pas du tout la première raison. La première raison, c'est le réchauffement climatique. Et qui a vraiment un impact beaucoup plus important sur la destruction de la faune et de la flore marine. Et eux, ils le voient, c'est très inquiétant. Et voilà. Et les seuls filtres sont, c'est minime, en fait, comme impact par rapport au réchauffement climatique. Et c'est ça dont on devrait se préoccuper le plus. Et c'est vrai que l'industrie cosmétique fait partie des plus gros pollueurs. Donc c'est là on parle des solaires, on parle des filtres, mais c'est vrai qu'en fait c'est un peu sur toute la chaîne qu'il faut agir en faisant attention à notre impact carbone, au packaging, ça c'est un autre sujet qui est très compliqué aussi. Mais c'est vrai que c'est un ensemble de choses auxquelles il faut faire attention à titre personnel et en, maintenant quand on crée aussi une entreprise, de prendre notre part de responsabilité sur notre impact sur l'environnement, parce que voilà, parce que je pense et j'espère que voilà, chacun avec nos petites initiatives à vouloir changer les choses, on aura un impact positif en quelques années, c'est sûr, peut-être même des dizaines d'années, mais en tout cas d'essayer d'inverser la tendance, ce serait très bien.
Ouais, ce serait pas mal. Bah, justement, par rapport au packaging, vous avez fait quel choix ?
Alors, je suis partie sur l'idée, donc forcément, packaging recyclé, recyclable. Donc, du plastique, parce que sur la plage, travailler du verre, c'est quand même assez compliqué. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi sur les packaging. J'ai contacté Citeo, qui est un super organisme. Je conseille à tout le monde de le faire quoi, sur la réflexion sur les packaging. Ils nous aident beaucoup. Un des conseils que je me suis appliqué, que j'ai trouvé pas mal, c'est de se dire, en fait, le verre, c'est bien sur des petits contenants. On sait que c'est recyclable à l'infini, mais c'est lourd.
Oui.
Donc, eux, ils m'ont dit, à partir du moment où sur des solaires, bon, bah, forcément, on va sur du plastique. Ils m'ont vraiment, incité à travailler sur le poids du packaging, sur la façon dont il allait être emballé, la façon dont il allait être envoyé, et de travailler plus sur l'impact carbone, en fait, du packaging. Et les couleurs, pour être sûr que le packaging puisse être recyclé derrière. Alors, il y a pas mal de choses qui interviennent. Et bon, après, c'est des flacons pompes. Donc, c'est pareil, la pompe n'est pas, aujourd'hui n'est pas recyclable. Donc, j'ai bien mis sur mon site internet et aussi maintenant directement sur le produit, les consignes de tri.
Ça va être
obligatoire à partir de l'année prochaine, si je me trompe pas. Et on commence à le voir apparaître sur certains produits. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Au moins, on n'est plus en train de se dire dans quelle poubelle je le mets. Là, c'est écrit dessus. Pour l'instant, c'est ça. J'espère vraiment pouvoir faire évoluer mes packaging dans un avenir proche, si j'ai suffisamment de quantité déjà, parce que ça, c'est une contrainte. Et ensuite, parce que l'industrie du packaging arrive avec des nouvelles solutions de plus en plus performantes. Donc je pense que c'est aussi un domaine qui va évoluer dans le bon sens.
Bien sûr. Comment est-ce de développer sa marque en plein Covid ?
Alors, c'est sûr, c'est particulier. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir pris ma décision de créer mon entreprise avant ce phénomène Covid. Donc, j'étais déjà partie de toute façon pour être en mode restreint, enfermée chez moi, à pas voir grand monde et à pas avoir trop les moyens de sortir ou d'aller me promener.
C'est ça.
Donc, en fait, ça n'a pas trop changé mon quotidien. J'aime bien dire que l'univers était bizarrement aligné avec moi. Je devais être concentrée sur mon projet, je devais pas trop dépenser. Et là, maintenant, je commence à ressortir et à pouvoir faire des choses. Donc, je suis très en ligne, en fait, avec cet effet Covid. Donc, ça m'a pas trop, c'était pas une contrainte pour moi. J'ai presque même eu la chance d'avoir aussi l'opportunité d'échanger avec beaucoup de personnes qui, du coup, étaient plus disponibles. Donc, pour m'aider à réfléchir. Et donc, je vois plutôt ça comme quelque chose de positif dans mon travail. Je parle, bien sûr, parce que après, si pense aux autres, ça a été quand même pour beaucoup très compliqué. Voilà, donc moi, on va dire que ça n'a pas eu trop d'impact, sauf justement pour l'histoire d'approvisionnement, où là, tout était beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué de contacter les gens. Et on voit notamment sur les packaging, où c'était un très gros sujet, délai d'approvisionnement très long et les usines qui ne tournaient pas à plein régime, où on avait vraiment beaucoup de mal à communiquer avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir de l'impact encore jusqu'à la fin de l'année.
Bien sûr. Ça a retardé, du coup, la sortie de 2012 ?
Oui, alors moi, j'ai pris un mois de retard et vraiment uniquement à cause de l'approvisionnement en packaging, alors que comme je travaillais déjà dans ce secteur-là, c'était vraiment un sujet que j'avais anticipé énormément. Et on a pris du retard parce qu'ils n'arrivaient pas à fournir, parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement en matières premières déjà, parce que tout le monde veut maintenant serrer aussi du plastique recyclé. Donc, ils avaient du mal à en avoir. Et puis après, les échanges, c'était interminable. J'ai commandé et payé mes packaging en décembre. Et je les ai reçus première semaine d'avril.
Donc, quand même.
Ouais, donc quand même super long. Donc ça a été mon gros stress. Et après, heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que le labo avec lequel je travaillais, le logisticien après. Tout le monde, j'avais mis tout le monde dans les starting blocks. Et en fait, on a reçu, ils ont rempli le jour même, et ça a été livré 2 jours après. On a renvoyé chez les clients qui avaient précommandé 3 jours après. Quoi. Là, on a été à une vitesse incroyable. Ouais. Mmh. Wow. Ouais, ça, c'était bien, heureusement.
Quelle est la prochaine étape alors?
Alors là, je suis pour l'instant très... Donc justement, comme j'ai pris un mois de retard et que c'était solaire et que forcément, la saison, c'est maintenant.
Ouais.
Là, je suis très concentrée sur la commercialisation des produits, faire découvrir la marque à un maximum de monde voilà, pour assurer la saison cet été. Je suis super contente parce que pour l'instant, ça fonctionne bien. Et en même parallèle, bah, je travaille sur les prochains produits Midi 12 parce qu'on sait qu'il faut anticiper beaucoup les, voilà, les formulations, la réflexion. Et dans l'idée de sortir un nouveau produit pour l'hiver sur le marché français. Et en parallèle, je commencerai à travailler l'autre hémisphère pour proposer les produits solaires Midi 12. Donc, c'est forcément très intense en ce moment. C'est assurer le présent.
Ouais.
Et puis, bah, travailler sur l'avenir pour réussir à faire une marque, voilà, qui perdure dans le temps, parce que c'est quand même ça l'objectif aussi.
C'est ça.
Voilà. Avec un rythme dans ma tête, en tout cas, j'aimerais vraiment avoir un rythme de développement assez lent sur le développement produit pour pouvoir vraiment travailler mes propres formules et rester sur une gamme assez courte, mais que je puisse proposer dans beaucoup de pays. Ce serait parfait.
Ouais. Et pourquoi Midi 12?
Alors, Midi 12, c'est parti d'une réflexion avec plusieurs amis. On cherchait les noms et franchement, j'avais beaucoup de mal à trouver un nom. Alors, aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà déposées.
Ouais.
Et là, donc, on était vraiment dans les échanges et Midi 12 est devenu un peu une évidence sur la notion de l'heure solaire, en fait. Il est midi. D'ailleurs que c'était parti de ça. Tiens, il est midi 12. On était sur les heures, à parler sur les heures en fait et sur le temps qui passe parce qu'on était en vraiment mode brainstorming. Et midi 12, c'est l'heure solaire, c'est l'heure à laquelle le soleil est au zénith. Et voilà. Et donc, je trouvais qu'il y avait une symbolique qui était sympa avec le 12 qui est un chiffre avec beaucoup de symbolique. Donc, ça, voilà, ça a pris son sens et puis c'était. Dans la réflexion entre amis, c'est devenu ce nom qui a rassemblé tout le monde. Donc, on s'est dit, OK, c'est celui-là, c'est parti.
L'unanimité.
Voilà, ça fait l'unanimité. Et c'est presque moi qui ai eu plus de mal à me l'approprier au départ. Et maintenant, j'adore. J'adore. Je trouve que ça a tout son sens. Et j'aime bien, heureusement. Oui, c'est ça. J'aime bien le nom de ma marque. Donc, c'est chouette.
Bah, longue vie à Midi 12 alors.
Oui, j'espère. Franchement, en tout cas, je ferai tout pour. Et puis, je suis en train de bien m'entourer en plus pour que ça fonctionne et que voilà, qu'on ait une équipe qui marche et qui développe cette marque voilà, partout.
C'est tout ce qu'on vous souhaite.
Génial.
Merci Aurélie.
Merci beaucoup Chantal. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
Plaisir partagé.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile. Ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.